Le vrai courage consiste à vivre quand il est juste de vivre, à mourir quand il est juste de mourir.
L'esprit chevaleresque, troisième épisode, la chevalerie au féminin.
Oui, vous savez que les femmes au Moyen Âge n'étaient pas du tout comme vous le pensez. Elles avaient beaucoup de pouvoir, presque autant que les hommes. Voyons voir. Où l'ai-je mis, ce livre mystérieux ? Ah oui, le voilà. Chaque fois que je le tiens dans mes mains, j'ai 10 ans, comme vous, mes filles.
C'est quoi, ce livre ?
Une sorte de rêve éveillé. Où l'on rencontre des filles surpuissantes qui peuplèrent le Moyen-Âge. Ça vous dit de le parcourir avec moi ?
Ouais, mais en fait, on devait aller jouer dehors.
J'ai entendu si, si, si. Alors fermez les yeux, je vous en prie.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Il y a une veine rêvée, peut-être, d'une histoire du Moyen-Âge qui serait féminine. Michael Lonsdale lisant devant des petites filles, un livre de Régine Pernoud, peut-être. On parlait lundi du mal Moyen-Âge, selon Georges Duby. Autre point de vue aujourd'hui qui va être défendu par Sophie Cassagne-Brouquet. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez publié chez Perrin « Chevaleresque » et on a emprunté le titre de cette émission au sous-titre de votre livre « La chevalerie au féminin ». Mais vous n'allez pas défendre la veine Régine Pernoud ?
J'espère que non. J'espère avoir découvert un filon historique basé sur des archives qui montre qu'il y a eu des femmes au Moyen-Âge dès l'époque mérovingienne, mais bon, on connaît beaucoup mieux à partir du XIe, XIIe siècle jusqu'au XVe siècle, des femmes, et le mot existait, qui combattaient à cheval, et on les appelait des chevaleresses.
Oui, mais parlons d'abord, si vous voulez bien, soyons concrets, Sophie Brouquet, parlons du patrimoine. Vous n'allez pas me dire tout de même que le patrimoine était vraiment dans la main des femmes. Le patrimoine passait du père au fils aîné, devant la femme spectatrice.
Alors, le patrimoine passait bien du père au fils aîné, si tant est qu'il y ait eu un fils aîné. Hein, la mortalité est quand même importante et beaucoup de lignages tombent en quenouille, comme on dit, c'est-à-dire entre les mains de la fille. Et puis, bien entendu, l'homme est un homme marié au Moyen-Âge, sinon il n'est pas adulte. Ce n'est pas l'âge de la majorité qui compte au Moyen-Âge, c'est d'être marié qui fait d'un homme un adulte. Et l'homme est souvent absent. Si je prends par exemple la comtesse Marie de Champagne, la fille d'Aliénor, donc il y avait eu un modèle déjà assez viril, on va dire, entre guillemets. Elle a régné pendant 15 ans sur le comté de Champagne, qui était l'un des comtés les plus importants, en l'absence de son mari, puis ensuite de son fils, qui était parti, les deux, aux croisades. Pendant 15 ans, elle a dirigé le comté le plus riche du royaume de France.
C'est l'absence qui permet à la femme de jouer un rôle premier. Vous avez fait visiter, je crois, dans l'Ariège, voisine de votre université de Toulouse, le château de Puyvert, à un groupe d'amis cet été.
Oui, le château de Puyvert, c'est là qu'a été tournée la Passion Béatrice. C'est un château dit cathare, où il y a eu effectivement pour une fois quelques cathares, mais qui était surtout connu pour être un rendez-vous de chevalerie. On y a tenu des tournois et aussi des cours d'amour avec les premiers troubadours.
Cortemar, le héros du film La Passion Béatrice, signé par Bertrand Tavernier, est d'un raffinement tout relatif. Alors le voilà qui s'adresse à son fils avant son départ pour la guerre en 1345.
François de Cortemar n'avait alors que 10 ans et son père partait à la guerre.
Emmenez-moi guerroyer avec vous, père.
Retournez au château. Apprenez d'abord à défendre votre mère. Elle est si belle et les hommes si brutaux.
Et les hommes voudraient bien emporter les trésors du château.
Maître Blanche ! Je t'avais pas donné mon accord.
Je n'avais pas non plus regardé à deux fois vos terres. La plupart des champs sont en friche. Vos manants les ont désertés et vous les avez laissés à l'abandon. Ce sont des terres incultivables, madame, que vous nous vendez.
Votre père est-il parti depuis longtemps ?
Depuis près de 4 ans. Et si je vous la refusais ?
Nous ne pourrions alors vous donner la somme que vous escomptez.
Ne cédez pas, Béatrice. Il vous en demandera toujours davantage.
Soit. Mais en retour, j'exige de voir chacune de vos pièces d'or.
Comment cela ?
Vous mettez en doute nos terres, je mets en doute votre argent. Je reviendrai les compter.
Nous sommes en 1349. Le seigneur a disparu depuis 4 ans. Et sa femme a bien du mal à tenir tête aux envieux. Est-ce qu'elle est capable d'être une virago ?
Ça dépend si elle est attaquée.
Qu'est-ce que c'est une virago ?
Alors la virago, c'est un terme qu'on trouve dès le début du Moyen-Âge qui signifie une femme qui a un cœur d'homme. Vir, en latin, l'homme. C'est un mot au Moyen-Âge. Alors aujourd'hui, c'est très péjoratif. Une virago, c'est une femme masculine, vulgaire. Au Moyen-Âge, pas du tout. C'est double. C'est-à-dire que si la virago combat, par exemple, pour Dieu, par exemple, Mathilde Toscane, qui dirige les armées du pape pendant la réforme grégorienne, alors là, elle est la virago du Christ. Si elle se révolte comme son père, comme par exemple la fille du roi d'Angleterre, Henri Ier, on parle d'une horrible virago, mais ça veut dire juste qu'elle a un cœur d'homme, parce que le courage ne peut être que masculin. Au Moyen-Âge, peut-être même encore, bon, en tous les cas, le courage c'est masculin. Donc il faut qu'une femme, si elle se bat, ait un cœur d'homme. On va parler pour Jeanne d'Arc aussi d'ailleurs plus tard de virago. Mais ce n'est pas pessimiste, c'est pas négatif forcément, ça dépend de la querelle qui... Et si la femme défend son patrimoine, le patrimoine qui est un patrimoine familial. Hein, le couple au Moyen-Âge, le terme qu'on emploie, c'est un consortium, c'est-à-dire une affaire familiale qu'on doit défendre, que ce soit l'homme, le fils, la fille, peu importe, du moment qu'on défend le bien.
Dans Chevaleresse, je reviens au livre que vous avez publié il y a quelques temps chez Perrin, vous racontez le parcours de certaines femmes dans les croisades. Mais moi je croyais qu'il n'y avait que des prostituées ou des vivandières qui suivaient les convois des croisés.
Alors pas du tout. Pas du tout. De même que chez les croisés, il y a toutes les sortes de les catégories sociales, on va dire, surtout à la première. Hein. Ensuite, évidemment, les nobles, les paysans s'étant fait massacrer lors de la première croisade, il y en a moins. Mais on trouve donc des femmes de la noblesse. Effectivement, dans le droit de l'Église, la croisade, c'est un pèlerinage. Donc, comme les femmes ont le droit d'aller au pèlerinage, elles ont le droit d'aller à la croisade. Elles peuvent partir avec leur mari. Si elles veulent partir avec leur mari, il faut qu'elles demandent l'autorisation au mari. Mais si le mari veut partir, il doit demander l'autorisation à sa femme. Ça, on l'oublie souvent. Elles peuvent partir avec leur fils. On a pas mal de femmes de la noblesse qui sont parties avec leur fils, voire Aliénor. Hein. Il y a aussi des femmes seules qui sont parties, des héritières. Et on trouve des femmes du peuple. Alors là, ce ne sont plus des chevaleresses, ce sont des guerrières. Et moi, j'ai un faible énorme pour Marguerite de Beverley, qui est née à Jérusalem. Ses parents étaient venus en pèlerinage à Jérusalem. Et puis ensuite, elle est partie toute seule, en pèlerinage, depuis l'Angleterre, jusqu'à Jérusalem. La pauvre, elle arrive 3 semaines avant que Saladin prenne la ville. Alors elle combat sur les murs, elle nous raconte. Hein. Elle combat sur les murs, elle a pris un chaudron en guise de casque. Elle a été blessée, elle a reçu des flèches. Ensuite, elle a été chassée de Jérusalem et prise en esclavage. Elle s'est évadée, enfin... Une histoire absolument rocambolesque qu'a recueilli son frère de moine, qui était tellement émerveillé par les exploits de sa sœur qu'il en a fait un poème.
Les chroniqueurs musulmans étaient moins admiratifs des femmes qui participaient aux croisades.
Alors oui, il y a effectivement... Alors on a la mention de femmes croisées donc chez les Francs, les Français, mais beaucoup moins que chez les musulmans, qui évoquent donc... Et là c'est quand même intéressant parce qu'on a 3 chroniqueurs contemporains de Saladin et qui sont allés sur les champs de bataille après les batailles. Et on dit que quand on a enlevé les casques, on a été étonné, on a trouvé des femmes. Alors, est-ce que c'est vrai ? Peut-être. Est-ce que c'est une manière de dénigrer l'ennemi efféminé. Voilà. Des deux côtés, on trouve que les chrétiens sont dégénérés ou les musulmans sont dégénérés.
Les croisades ont beaucoup participé au développement des ordres guerriers. Pour Saint Bernard, l'idéal du chevalier, c'était le moine guerrier. Alors, on connaît les Templiers, les chevaliers de Saint Jean de Jérusalem, les Teutoniques dans l'Europe du Nord-Est. Mais il y a aussi les ordres ibériques au Portugal ou en Espagne. Ceci, c'est un dialogue dans le château du maître de l'ordre de Santiago. Bon, le dialogue est un peu tardif. Et puis, il est fictif. C'est une pièce d'Henri de Monterland qui se situe au moment où commence à se déliter l'ordre de Santiago. La fille du maître semble avoir une très haute idée de l'ordre.
Ces messieurs ne seront donc que 6 à venir. Le mois dernier, ils étaient 8. Le mois prochain, ils seront 3. Surtout si Don Alvaro persiste à leur offrir une hospitalité aussi austère. Pourquoi les avait-il pas à souper comme ferait quiconque à sa place?
Mon père trouve qu'il est indécent que des sujets d'une certaine gravité soient mêlés à des soucis de nourriture. Et il loue fort la coutume des Arabes, chez qui le maître de maison, lorsqu'il traite des hôtes, assiste au repas sans y prendre part.
N'importe, leur servir de l'eau, quand le vin de notre cave, après tout, n'est pas si mauvais.
Oui, je sais, vous me l'avez dit, le symbole de la pureté. Avec cela que les chevaliers d'autrefois se gênaient sur le vin.
Comme elle est fraîche, emportante. Et comme je comprends que mon père ne veuille pas d'autre boisson que celle-là pour ses chevaliers.
Mais c'est donc cela, vous allez vous rendre malade. Encore, appelez le lampée, boire de l'eau froide quand il gèle dehors.
Je ne la bois pas, je la mange. Oh, madame, elle est glacée, elle me brûle. On dirait que je mange du feu.
Une réalisation du maître de Santiago à la télévision en 1965, signée Jacques Gérard Cornu. La fille du maître n'a pas sa place dans un ordre guerrier, à moins que ce soit un tempérament de feu tel qu'elle l'emporte en ferveur sur son père.
Alors, si, dans l'ordre de Santiago, on admettait les couples.
Les couples.
Les couples. Alors, c'est une situation quand même assez particulière à l'Espagne. Au moment de la Reconquista sur les musulmans, beaucoup de guerriers qui partaient, ou de croisés on peut dire, qui partaient quand même pour une bonne partie de l'année, là, puisque là il y a un front permanent, ils ne savaient plus trop quoi faire.
Il s'agit de chasser les morts du
voilà,
sud de l'Espagne.
Oui. Ils ne savaient plus trop quoi faire de leurs femmes et de leurs enfants. Et donc, l'ordre a accepté l'intrusion donc des couples mariés, les maris partant à la guerre et les femmes restant avec leurs enfants dans des couvents. Et donc, il y a plusieurs ordres ibériques, en particulier l'ordre de Santiago, où on trouvait des femmes.
Mais vous insistez aussi, Sophie Brouquet, sur la présence inattendue de femmes chez ces brutes, entre guillemets, hein, de chevaliers teutoniques.
Oui, alors ça c'est encore plus étonnant, que ce soit chez les Templiers, chez les Hospitaliers et chez les chevaliers teutoniques, qui étaient des ordres au départ qui étaient prévus pour n'accueillir que des hommes et des moines, beaucoup de femmes ont voulu participer, elles étaient partie prenante de l'idéal de la croisade et ont voulu entrer dans les monastères, ou dans les commanderies plutôt pour ces ordres-là. Et alors, face à l'afflux de ces femmes qui se donnaient, alors au Moyen-Âge on se donne, hein, en tout cas, c'est-à-dire qu'on entre dans le monastère et on offre ses biens, les ordres n'ont pas résisté. Et donc, du coup, chez les Templiers, où c'est bien écrit dans la règle qu'il ne doit pas y avoir de femmes, eh bien, on trouve des femmes au moment quand Philippe le Bel justement supprime l'ordre, il y a des femmes. Et dans les chevaliers teutoniques, eux, au contraire, ont accepté les femmes. Et ils se sont voués à la Vierge. Et donc, l'ordre voue un culte extraordinaire à la Vierge. Et il a partout des sœurs qui ne combattent pas, hein, mais qui prient pour les succès militaires de l'ordre des Teutoniques. Ce qui change quand même beaucoup l'image d'un ordre qui apparaît comme un peu brutal, un peu sauvage, puisqu'ils étaient quand même assez féminisés, si on peut dire, comme ordre.
Mais il est vrai qu'il y a une veine oubliée dans l'histoire du monachisme médiéval, qui est celle du monastère double.
Oui.
Il est arrivé qu'il y ait un monastère double, hommes et femmes.
Oui, chez les Celtes, notamment, chez les monastères irlandais, et Fontevraud, bien sûr. Hein, et Fontevraud est contemporain des croisades. Donc, mais ce qui est intéressant, c'est quand même les Templiers qui disent non, la règle dit non. Et puis, en fait, quand on arrête les Templiers, on voit qu'il y a des femmes. Donc, il y a même un Templier, bon, ça peut vous faire rire, mais il y a même un Templier, quand on l'arrête, qu'on le condamne pour sodomie, il dit, mais non, puisqu'il y a des femmes dans notre couvent, il n'y a pas besoin de sodomie.
Philippe le Bel, qui condamne les Templiers, les persécute, il est témoin d'une époque de crise de la chevalerie, puisque à Courtrai, avant son règne, au début du XIVe, à Crécy, pendant son règne, en 1345, les chevaliers se sont avérés incapables de garantir la souveraineté du roi. Ils étaient là, impuissants, juchés sur leur monture. Et les soldats à pied, en revanche, les archers, les arbalétriers, tirant dans tous les sens, par derrière, ont emporté la victoire.
Oui, on va dire la guerre de 100 ans. Hein, et tous les conflits autour, par exemple, l'Angleterre, l'Écosse, etc., marquent un changement militaire avec la professionnalisation des armées, ce qui fait que la chevalerie, comme au temps du XIIe siècle, voire même du XIIIe, entre en crise. Et on le voit bien, notamment dans toutes les batailles où s'affrontent des chevaliers et des archers, en particulier Crécy, mais peut-être encore plus Azincourt, les hommes de la noblesse, se voient vraiment tués, capturés.
Alors prenons l'exemple, après la bataille de Crécy, vous vous souvenez, le seigneur de Cortemar avait disparu en 1345. Il réapparaît un an après la vente de la tapisserie, 1349, nous sommes donc en 1350, et toujours dans le film de Tavernier, La Passion Béatrice.
Qu'est-il advenu de la tapisserie ?
Je l'ai vendue.
Je n'aurais pas dû la vendre.
Je n'avais pas le choix.
S'il vous déplaît de nous conter vos faits d'armes, père, permettez alors à votre fils de s'en acquitter, plutôt que ces hommes qui nous sont étrangers.
Puisque ma fille le désire, je vais vous conter l'histoire de nos faits d'armes. Formidable bêtise. Formidable désordre de toute la chevalerie. Devant une vermine embusquée, tirant des flèches autant que de grelots au mois de mars. Nous étions tous affamés d'or. Nous pensant qu'au rançon, et chargeant autant par cupidité que par vanité. Piétinant nos arbalétriers, nos hommes de troupe, pour mieux nous faire culbuter dans les fossés où nos chevaux s'éventraient. Ce fut le triomphe des coupe-jarrets. Pas un Anglais, tu entends ? Je n'ai pas blessé un seul Anglais. Mais des Génois et des Français. Mon frère, lui, n'a pas chargé. Il est resté seul au milieu du champ de bataille. Immobile sur son cheval. Des mouches s'agglutinant autour. Des mouches. C'est parce que ton frère est un couard. Et qu'à chaque bataille, ses instincts se relâchent. Et répandent au-dessus de lui et de partout la selle de son cheval une mare d'excréments pestilentiels. Les Anglais, en bus qui attendaient. Un garçon couvert de merde, fût-il noble, ne devait pas leur suffire. Alors j'ai voulu sauver ton frère. La peur avait transfiguré en une statue dégoulinante. Et je suis retourné au milieu du champ désert. Alors les Anglais ont surgi, ils étaient 30. Voilà. Il n'y a pas eu de fait d'armes !
Eh oui, le fils était un couard, crise de la masculinité. Et le père, Bernard-Pierre Donadieu, dans le film de Tavernier, est devenu un bloc de fiel et d'amertume. Crise de la masculinité autant que crise de la chevalerie.
Oui.
Expliquez.
Eh bien, alors il y a aussi d'autres choses qui viennent s'ajouter, notamment la peste, puisque c'est les périodes de la peste où il y a aussi des morts.
La peste noire, 1348.
Des morts aussi. Donc beaucoup de femmes veuves, ou croyant être veuves, parce que parfois les maris réapparaissent. Et là, on le voit très bien, elles sont obligées de prendre les commandes, et on a donc des femmes qui se battent. Bon, j'ai donné par exemple dans mon livre l'exemple de Black Agnès, hein, qui est un personnage légendaire de l'histoire écossaise. Son mari est mort, son frère est en captivité, et c'est elle qui défend le château contre les armées anglaises. Voilà. Et on retrouvera aussi la même chose en Italie avec Richard de Saluces, qui est assez amusant. Richard de Saluces, son mari, marquis de Saluces, est fait prisonnier. Il est en captivité à Milan. On est dans le nord de l'Italie. Et Richard monte une armée de femmes. Et ça, c'est pas une légende, hein, cette histoire. Pour aller délivrer son mari. Et dans un texte qui va être publié, que son petit-fils va écrire plus tard, Dame Gloire apparaît au petit-fils et lui dit « Souviens-toi des exploits guerriers de ta grand-mère et non pas du grand-père. » Donc, on a là des exemples qui ne sont pas des exemples littéraires, qui ont réellement existé, qui montrent que certaines femmes ont dû remplacer sur le champ de bataille ou les sièges, les hommes manquants.
Mais vous dites, attendez, c'est pas des légendes, mais vous avez beaucoup lu, comme les gens qui écrivent pendant cette période de crise, le XIVe siècle, les légendes autour de Sémiramis, reine de Babylone, Hippolyte, sa sœur, Penthésilée, reine des Amazones, etc. Ces personnages féminins ont une fortune littéraire dans la première moitié du XIVe.
Ce sont les neuf preuses, qui sont donc neuf femmes de l'Antiquité, qui sont données en exemple aux hommes et aux femmes, comme des vertus de prouesse. Alors, il faut dire quand même qu'au départ, au début du XIVe siècle, fin du XIVe siècle, un poète de la cour de Lille invente les neuf preux. Ça, c'est tout à fait classique, je dirais. Neuf preux, neuf héros qu'on veut imiter. Ce sont les super-héros César, comme nous avons aujourd'hui. Et puis, à la fin du XIVe siècle, par un espèce d'exemple de parité médiévale, un autre poète qui s'appelle Jean Lefebvre, qui est d'ailleurs auteur d'écrits très misogynes jusque-là, fait pénitence et invente donc ses neuf preuses. Et dans le livre, l'allégorie de la liesse, de la joie, dit que jamais hommes ne furent plus courageux que femmes. Alors comme il n'y a pas d'exemple comme du Guesclin, comme le roi Arthur, on va les chercher dans l'Antiquité, en particulier chez les Amazones.
Femelles sont plus preuses, plus vaillants et vertueuses que les mâles ne furent onques. C'est l'exergue de votre livre, Sophie Cassagne-Brouquet, chez Perrin, qui s'intitule « Chevaleresse ». Les neuf preuses, au fond, ça prépare le thème de Jeanne d'Arc.
Oui.
Ce sont les voix qui se font entendre de Jeanne. Mmh. Ce sont les neuf preuses.
Oui. En fait, vous m'avez parlé de rapport avec la légende. C'est compliqué. Est-ce que ces femmes de la noblesse ont voulu imiter des modèles? Est-ce que ces modèles se sont incarnés dans les femmes de la noblesse? En tous les cas, quand Jeanne apparaît, ça fait au moins 40 ans que, en ville, à la campagne, dans les cours, on montre des spectacles avec les neuf preuses. Ce sont des spectacles de cavalcade, quand le roi ou la reine entre en ville, même certains évêques, ce qui est quand même plus étonnant, se fait faire des entrées à la preuse, entourées de femmes à cheval, en habit d'Amazone. Et il est évident que ces personnages sont très bien répandus, puisque si on regarde aujourd'hui, ce sont nos reines des jeux de cartes à jouer.
Oui, mais enfin, Jeanne, elle vit trop isolée en Lorraine. Et oui. Elle est trop jeune pour avoir entendu parler des neuf preuves, surtout la Jeanne, selon Dumont. Alors ce mercredi sort, on le sait, un film très attendu de Bruno Dumont, tourné dans sa région, dans le nord de la France, et où le personnage de Jeanne est incarné constamment par une enfant de 10 ans, Lise Le Plat Prudhomme, qu'on entend ici avec une innocence à la Charles Péguy devisée avec un de ses compères.
Vous rappelez-vous, maître Jean, vous rappelez-vous, au retour de Reims, quand nous avons passé par ces pays-là?
Oh oui, madame Jeanne, et vous vous rappelez aussi? Oh, c'était beau, hein, avec ces gens du village.
C'est un bon peuple.
Qui nous donnaient à boire, à manger, de l'eau, du pain, tous ces pétales qui volaient dans le ciel. Oh, je me rappelle très bien. Et vous vous rappelez quand on dansait tous les deux, madame Jeanne? Oh, c'était très beau, hein.
C'était d'un bon peuple, mais c'est ce peuple-là que l'on délaisse aux bourguignons, aux anglais. Ils ont même dit, maître Jean, qu'ils allaient tout massacrer, les hommes, les femmes, et jusqu'aux enfants de 7 ans.
Oh, il ne faut pas penser à ça, madame Jeanne. Vous n'êtes pour rien. Ne pensez pas à ça.
Aussi, mon maître, oh, je vous assure que cette fois-ci, nous y pouvons au moins y tenter remède, parce que j'ai décidé, moi, que nous tâcherons d'y porter remède.
Comment ça, madame Jeanne?
Le roi, notre sire, va passer tout à l'heure. Je vais le supplier pour qu'il aille au secours de son bon peuple.
Il ne voudra pas, madame Jeanne.
Attendez, mon maître, s'il ne veut pas, je pars sans lui.
Quoi? Vous, que vous avez conduit l'armée royale, devenir chef de bande? Madame Jeanne, chef de bande, ils peuvent tout vous arriver, que des malheurs. Ne faites pas ça.
Je vous entends, mon maître, je vous entends. Mais j'ai décidé tout. J'ai décidé que je serai chef de bande. Je ne veux plus raisonner, je suis las des raisonneurs et las des raisonnements. Il y a sur la Seine et de l'autre côté de la Seine des villes qui se sont données à nous. Nous devons les garder, nous ne devons pas faillir à leur bonne confiance. Elles sont en péril d'assaut. Je veux aller à leur aide, j'irai. Je ne veux rien savoir d'autre que ça.
étonnant ce parti pris de parler du point de vue de l'enfance, c'est-à-dire que l'enfance est toujours reconduite dans l'histoire jusqu'à nos jours et démentit l'expertise. Parce que si on avait écouté les experts à la façon d'aujourd'hui, au moment du discours de Jeanne à Vaucouleurs, personne n'aurait donné 1% de chance de réussite à Jeanne d'Arc.
Alors, oui et non, parce que justement, si Jeanne ne connaît pas les histoires de Preuse, la noblesse, elle est baignée dans ces histoires. Et donc, nous, ça nous paraît étonnant qu'une jeune fille bon, de 17 ans arrive à la cour et qu'on lui donne une armée. Enfin, imaginez aujourd'hui quelqu'un au ministère de la guerre, de 17 ans.
Déjà qu'on a une femme au ministère voilà. de la guerre.
Mais ces gens ont été préparés par cette vogue de la belle guerrière. Et il y a aussi tout le prophétisme hein, qui annonçait donc qu'une certaine Marie Robine, une mystique, avait annoncé qu'une vierge viendrait de Lorraine. Voilà. Et au Moyen-Âge, on est quand même mystique, hein, même quand on est le roi de France ou l'entourage du roi de France. Donc, les deux se combinent, si vous voulez. Qu'une jeune fille vierge veuille combattre, c'est pas si choquant que ça à l'époque. C'est courant dans la réalité et dans la littérature, c'est partout. Et puis, cette vague de mysticisme. Alors, on dit aussi que c'est... Il y avait aussi des bergers qui devaient sauver le peuple de France, ou alors une vierge. Vous voyez, donc elle combinait les deux. Et du coup, c'est difficile pour nous. On se dit, mais c'est pas possible. On imagine des complots. Vous savez, toujours tous ces complots autour de Jeanne d'Arc. Mais c'est parce qu'on fait un anachronisme de l'esprit, des sentiments de l'époque.
Vous n'avez pas encore vu le film qui sort aujourd'hui. J'ai dit qu'il était tourné dans la région de Bruno Dumont. Juste une recommandation que vous avez à faire au cinéaste quand il filme le Moyen-Âge, Sophie Cassagne-Brouquet.
Oui, ça c'est un de mes dadas. Je suis un peu lasse de voir un Moyen-Âge pluvieux et sombre. Quand on regarde les images de l'époque, on s'aperçoit que les gens adorent les tissus très colorés, mais vraiment très très colorés, en particulier les hommes. Et puis, il ne fait pas forcément un temps épouvantable tout le temps. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans le Moyen-Âge de pacotille, je dirais, du 19e siècle, à la sauce néo-troubadour. Mais c'est vrai qu'on a souvent, chez les réalisateurs de films, une impression d'un Moyen-Âge sombre, repris d'ailleurs aussi dans certaines séries, hein, très à la mode actuellement. Ça n'est pas obligé. Et il est vrai quand même qu'à l'époque de Jeanne d'Arc, il y avait un certain dérèglement climatique.
Merci à vous, Sophie Cassagne-Brouquet. L'un de vos livres, celui qui est consacré à notre sujet d'aujourd'hui, s'intitule « Chevaleresse, la chevalerie au féminin » et ce sont les éditions Perrin qui l'ont publié. Cette émission a été préparée par Franck Oliva, Frédéric Martin, Elinka Negulesco, Aurore Juvenel, à la technique Maxime Ingrand, la réalisation Juliette Gau. Et bien, je signale que la cathédrale d'Amiens, où est tournée une partie du Jeanne de Dumont, est pleine de lumière. Une annonce encore, bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour.
Une annonce, on a parlé il y a un instant de la première croisade, 1099. Un festival d'histoire y est consacré à Paris par l'association La Boîte à Histoire. Ce sera dans peu de jours, toute indication sur notre site. JO de Séoul.
Oui, cher Jean Lebrun, avec la rivalité historique entre Lewis et Johnson, Carl Lewis et Ben Johnson.